Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous fait un zapping de bons plans, où on vous propose trois trucs cool en 20 minutes. On est début mai, il fait beau, les oiseaux chantent, tout le monde est content et quel meilleur moment que le printemps pour prendre par exemple un livre et sortir lire dans un parc ou rester à la maison et regarder un film ou une série, un truc comme ça bien au frais chez soi.
DVD à 1€.
par exemple, un DVD à 1€. Rien de mieux que ça. Et c'est justement pour ça que nous sommes là, pour vous recommander, pour vous donner du fuel, de l'essence à idées et de l'essence à plaisir et à bonheur. C'est ce que nous allons faire dans cette émission, encore une fois, avec mes deux co-animateurs, mes deux invités de renom et de prestige. J'ai nommé Quakos alias Quakos et Siegfried alias Captain Web.
C'est moi.
Comment allez-vous?
Ça va, Patou?
Ça va. Ça va.
Oui, ça va, Quakou? Ça va, Captainou?
Ça va.
Vous profitez du soleil, tout ça? Vous êtes sorti vous faire bronzer? Non, vous sortez pas de la cave, en fait.
Je consulte mes emails. Là, je viens de recevoir un truc qui s'appelle Pornstagram. C'est Instagram avec que du porno. Ça a l'air sympa.
Le Captain Web a le corps bronzé, même en hiver, tu sais.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ça donne aux UV.
Mais évidemment, c'est donc ça son secret.
Et ben voilà.
C'est comme ça qu'il reste si beau.
Exactement.
Très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que nous aiderons, grâce à nos recommandations de qualité, nous aiderons nos auditeurs, eux aussi, à briller en société et à se faire apprécier de leurs convives. Ah. Et je vais commencer immédiatement avec une série dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Mais je pense que c'est le genre de série qui est suffisamment populaire pour que beaucoup de gens en aient entendu parler, mais suffisamment obscure ou inaccessible pour que certains ne soient pas forcément donné la peine de d'aller la regarder ou n'aient pas tenu sur plus de un ou deux épisodes. Mm-hmm. Cette série s'appelle Homeland et c'est une série qui est inspirée d'une, ou plutôt un remake d'une série israélienne qui est vraiment le genre de série de grande qualité. Qui donne ses lettres de noblesse à la télévision, en fait. Elle fait vraiment partie de ces séries qu'on apprécie énormément, et c'est pas le genre de série qu'on regarde tranquillement une fois par semaine et puis ça fait passer le temps. Là, c'est le genre de série qu'on, quand on rentre dedans, on dévore et on adore.
Tu te mets les 12 épisodes de suite.
C'est ça, exactement.
Comme Arnold et Willy, quoi.
Voilà, t'as tout compris, quoi.
D'accord. Comme Madame et Servier, quoi.
Vous faites des souvenirs, là. Alors, c'est tout à fait bien d'en parler maintenant, parce que la saison 3 est disponible depuis quelques jours en France. Moi, je vais plutôt vous parler de la saison 1 et 2. Bref, c'est toute la série, hein, mais c'est l'histoire d'un prisonnier de guerre qui a disparu pendant plusieurs années. C'est en Amérique, hein, évidemment, et c'est un prisonnier de guerre qui a disparu pendant plusieurs années et qu'on croyait mort et qui est libéré un jour par ses capturateurs, on va dire ça, par les gens qui l'avaient capturé.
Par ses kidnappeurs.
Voilà, les kidnappeurs. On parle de la guerre du Golfe. Donc, il est en territoire hostile, capturé par des terroristes talibans méchants. Le gros problème du début de la série, c'est que on se demande finalement si, avec une captivité aussi longue, il n'a pas été en tout cas, certains personnages de la série se demandent s'il n'a pas été converti et s'il n'est pas aujourd'hui une sorte d'agent double ou triple, non plutôt double, qui est revenu aux US, mais avec une mission pour une mission terroriste. Alors, l'une des plus grandes qualités de la série, c'est la qualité des acteurs. Il y a deux acteurs qu'on peut citer en particulier. C'est évidemment Claire Danes, qui est une actrice absolument incroyable. Franchement, elle a une... Enfin bon, tout le monde connaît Claire Danes, hein, c'est pas forcément la personne qu'il faut décrire le plus, mais par contre, l'autre personne que je voudrais mentionner, c'est pas le héros, pas le personnage principal, mais c'est Mandy Patinkin, qui joue le supérieur de Claire Danes, qui est un type qui doit avoir 50-60 ans, un gros barbu, un petit peu, pas gros, mais un barbu un petit peu très calme et très
serein. Il joue dans pas mal de séries, lui aussi.
Ouais, bah écoute, moi la série dans laquelle je l'ai découvert, c'était ce truc où...
Dead Like Me.
Voilà, exactement, Dead Like Me.
Ouais, ouais.
Où il était magnifique.
Connu tout de suite, effectivement, ouais. Suite à ça.
Très très bien, et il a une... C'est vraiment pour moi, ils sont tous bons, hein, tous les acteurs sont bons, mais il a une présence et un charisme et une finesse de jeu d'acteur vraiment incroyable. Alors, il y a donc ces acteurs qui soutiennent la série, il y a l'histoire où ça va commencer avec une sorte d'opposition entre le personnage principal et le personnage de Claire Danes, avec elle qui essaye de découvrir ce qui se cache derrière le retour de ce type-là. En même temps, elle est un petit peu instable, comme on va le découvrir pendant la série. Et elle a un passif au sein des agences de renseignement qui est un petit peu troublé, on va dire. Et ce qui est vraiment très bien fait dans cette série, c'est que on sait jamais tout à fait sur quel pied danser. Il y a un suspense qui tient le spectateur en haleine du début à la fin de la série, et en même temps on sait jamais qui a raison et qui a tort, et qui va aller où et qui va arriver à son but et qui va découvrir les choses.
C'est vrai que dans la première saison ils entretiennent bien le suspense quand même, ça jongle de l'un à l'autre.
Et ben justement, ce qui est très fort, c'est que ils réussissent à le faire de saison en saison. Et à chaque fois, à la fin de la saison, tu te dis bon bah là, ok, c'est plié, voilà, c'est terminé. Et bien en fait, non, ils te retournent la situation dans la saison suivante, et encore, tu te dis mais du coup, je sais pas vraiment ce qui se passe, qui croire, qui et ça reste. Alors, il y a quand même dans chaque saison une ou deux histoires. Vous savez, il y a toujours des histoires de différents personnages. Il y a une ou deux histoires qui sont vraiment un peu débiles, des trucs dignes de 24 heures chrono. Les dernières saisons, pas forcément les plus les mieux trouvées. Mais c'est vraiment une petite partie de la série, et tout le reste est d'une telle qualité que vraiment on en redemande, et c'est quelque chose que je peux recommander aux fans de série sans aucun doute, sans aucune réserve. Et je dirais même c'est une série pour tous. Là pour le coup, c'est quelque chose qui peut plaire à tout le monde, même si on n'aime pas forcément les thrillers, si on n'aime pas les séries d'action. C'est une des grandes séries de ces dernières années à mon sens, et je peux la recommander à tout le monde. Donc voilà, ça s'appelle Homeland.
Ouais.
Vas-y, Capitaine.
Vas-y. J'ai pas l'habitude de parler comme ça via Skype, c'est un peu déroutant pour moi. Parce que généralement, je vois les gens en train de parler.
Bah oui, dans la cave, vous êtes tous en face les uns des autres.
Et ouais. Donc, ouais, non, mais effectivement, Homeland, moi, j'en suis, comme je disais avant l'épisode, j'en suis à la moitié de la saison 2. J'ai un peu décroché pour l'instant. C'est peut-être pas le meilleur moment de, je sais pas, t'as vu les trois saisons, toi?
Moi, j'ai vu les trois saisons, ouais.
Ouais, et saison 2 par rapport aux autres.
Il y a un petit passage à vide au milieu de la saison 2, mais ça reste quand même bon, hein. Mais ça reprend bon, après. Ouais. C'est et puis je parlais de 24 heures chrono. Il y a un petit peu de ça, en beaucoup plus intelligent, en beaucoup mieux fait, bien meilleure qualité, hein, parce que c'est une série qui est faite par une chaîne privée qui met la qualité, mais il y a ce genre de suspense incroyable où tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, c'est comment ils peuvent s'en sortir, tu vois, et puis ils s'en sortent.
Le cliffhanger qui t'oblige à regarder l'épisode suivant et à te coucher à 5h du matin. Ouais.
Exactement. donc ça s'appelle Homeland et je le recommande à tout le monde. Siegfried.
Bon choix. Ah bah écoute, moi je vais vous parler de BD encore. Je vous avais parlé de Barbe Rouge il y a deux épisodes. On va repartir sur la BD cette fois, mais dans un genre totalement différent. Alors là, on oublie la BD franco-belge classique. Je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'une BD qui est un peu dans le style des blocs BD que vous voyez depuis un petit moment. Vous voyez le style un peu?
Oui, ouais. Oui, les blocs BD, tout à fait. Oui.
Voilà, le trait relativement sympa. Pas des dessins qui sont hyper fouillés, des BD plutôt qui se reposent plus sur l'histoire, un peu autobiographique dans le cas des blocs BD. Là, c'est pas trop le cas. Ça s'appelle L'App, L-A-P, un roman d'apprentissage, et c'est écrit et dessiné par Aurelia Horita, qui en est pas son coup d'essai, puisqu'elle s'était fait connaître avant par d'autres BD, dont le fameux Fraises et Chocolat, que vous avez peut-être lu.
Ah oui, c'est assez connu, oui.
Voilà, ouais, ça avait fait un buzz où elle racontait plein de choses sur sa vie sexuelle, jusqu'au moindre détail. Et,
ça t'a plu, ça?
Ah oui, j'adore, tu penses. Oui, mais on désespère pas, on essaie de la faire venir dans l'apéro, là. On est allé boire un coup avec elle l'autre jour, j'ai pas encore réussi à la convaincre, mais peut-être bientôt.
Elle sait dans quoi elle s'engage, c'est pour ça qu'elle veut pas y aller.
C'est-à-dire qu'elle a commencé par dire « je vais écouter ce que vous faites », là elle a écouté le numéro avec Angel Summers où elle expliquait comment elle se prenait les avant-bras dans l'arrière-train et
Non. On est une émission pour tous, Siegfried.
Oui, ah oui, excuse-moi.
On a tous des avant-bras.
On parlera du docteur Paul après, quoi. Donc, bref, en tout cas, peut-être qu'on l'aura un jour dans l'apéro. C'est-à-dire, revenons au truc. Donc, ça s'appelle L'App, un roman d'apprentissage, et c'est une BD reportage. Alors, c'est un style un peu particulier. C'est en fait une BD qui raconte son expérience au L'App. Et le L'App, c'est quoi? C'est le lycée autogéré Paris. Mmh. Alors, vous avez déjà dû en entendre parler, non?
Pas du tout.
Du tout. Ah bah écoute. Alors le lycée autogéré de Paris, c'est quelque chose d'assez unique. En gros, il y a en juin, je crois que c'est en juin 2013, elle a décidé donc de faire ce reportage BD donc sur le lycée autogéré, et elle est partie là-bas. Donc elle a rencontré l'équipe du lycée et les élèves, et elle a passé un an, un peu moins d'un an, parce que je crois qu'elle est en train de finir le deuxième volume là-bas pour suivre ce qui se passe là-bas. Alors il faut que je vous explique avant tout ce que c'est que le LAP. Alors le LAP, c'est un lycée. C'est un lycée de l'éducation nationale qui dépend d'un autre lycée plus classique. Alors c'est un lycée qui est pas comme les autres. Il y en a 3 ou 4, c'est des lycées pilotes un peu, qui ont été créés, si je me souviens bien, celui-là a dû être créé dans les années 70. Il y en a 4 en tout en France. Donc c'est un lycée qui n'a pas de proviseur, qui n'a pas de surveillant. C'est un lycée qui est entièrement géré par les élèves et par les profs. De façon tout à fait égale, hein. Il n'y a pas de personnes qui sont supérieures aux autres. Tous décident en assemblée quand ils doivent décider de quelque chose, de voter un budget ou une décision importante pour l'école. Et ben ils se réunissent tous en assemblée et ils décident. Donc une sorte d'utopie assez étonnante. Moi c'est un truc qui me fascine un peu. Et donc c'est un lycée qui est vraiment totalement différent. Hein. C'est un peu le mouton noir de l'éducation nationale. Mmh. Les mecs ils savent pas trop ce que c'est que ce truc là. Donc
comment ils le font? Enfin bon, c'est, je me demande comment ils le font administrativement parce que c'est quand même très réglementé. Alors, justement,
Administrativement, ça dépend d'un autre lycée qui est le lycée, un lycée qui est à côté. Ça c'est dans le 15e, je crois que c'est rue de Vaugirard, si je me souviens bien. Ouais. Et donc, administrativement, ils dépendent d'un autre lycée, mais ils sont totalement indépendants. Alors donc, par exemple, pour vous donner un exemple tout simple, toutes les décisions se prennent à main levée. Donc, par exemple, si demain ils décident de, par exemple pour les élèves, donc en juin de chaque année. Ils préparent la rentrée suivante, et donc c'est préparé, les élèves préparent ça avec les profs, et ils vont recevoir les nouveaux élèves qui veulent rentrer dans le lycée, et ils vont leur parler, et ensuite ils décideront, lors d'un vote, quels sont les nouveaux élèves qui vont être acceptés. Donc c'est pas classique, etc. Il y a aussi le fait qu'il n'y a aucune note, et surtout, il n'y a aucune obligation d'assister au cours. Ça peut surprendre, effectivement.
Mais tu ne l'as pas fait, ce lycée, toi, Capitaine?
Non, c'était un peu le même principe. J'assistais pas non plus au cours.
Ouais, c'est pour ça.
C'était un autre lycée, ouais.
Ah, mais, d'accord, ok.
C'est pour ça que j'adore le concept, quand même. Ouais. Alors, c'est pas, quand on parle d'autogestion, c'est vraiment de l'autogestion à 100%. Alors, par exemple, c'est eux qui font le ménage, c'est eux qui font les travaux quand il y en a à faire dans l'école, c'est eux aussi qui font la cuisine et la vaisselle. Alors, par exemple, à midi, quand c'est l'heure de manger, ils vont faire le tour de tous les étudiants, ils disent qui c'est qui veut bouffer ici, tu veux bouffer ici, tu donnes 2 €, et après ils vont faire les courses, et après ils vont faire la bouffe. Et après ils font la vaisselle.
D'accord.
Donc, tu vois, c'est vraiment, c'est quelque chose d'assez.
Et après, s'il reste un peu de temps, ils vont en cours.
Ouais, voilà. Ouais. Alors après, tout est négociable, quoi. Si par exemple, il y a des cours qui sont organisés quand même. C'est pas non plus. C'est un lycée. Il y a des profs, mais il y a pas d'obligation. Si par exemple, il y a un élève. D'ailleurs, c'est donné comme exemple, si je me souviens bien, dans la BD. Il y a un élève qui dit, cette année, je suis en première, mais j'ai pas envie de faire de maths parce que de toute façon, je vais passer le bac philo. Donc, je préfère aller assister au cours de philo des terminales plutôt que d'aller au cours de maths. Et les profs disent, écoute, si tu veux, vas-y, c'est très bien. Alors évidemment, en fin d'année, il y a quand même une sorte de bilan qui est fait, mais qui est pas noté, et qui est surtout basé sur l'assiduité, enfin, sur le, la volonté des élèves à continuer ce parcours. Enfin, pour en revenir donc à cette BD qui est assez étonnante, Aurélia a donc passé une année au LAP. Et lors de cette année, là, c'est les 3 ou 4 premiers mois, je crois qu'elle raconte, puisqu'elle va faire plusieurs volumes, et ben on retrouve son expérience à elle. Alors évidemment, c'est un regard qui est pas neutre, hein, c'est son expérience qu'elle explique avant tout, même si elle essaye de voir tous les côtés, donc le côté des profs, le côté des élèves, on voit ça à travers ses yeux. Et c'est aussi ce qui est intéressant, parce qu'on voit qu'au fur et à mesure, elle s'attache donc à ce lycée qui est quand même très particulier, qui forcément... Donc du coup, tu fais très vite partie. C'est une communauté en soi. C'est quelque chose d'assez particulier. Donc dans cette BD, elle va parler des bons côtés du LAP, aussi des mauvais, parce que c'est pas quelque chose qui est adapté à tous les élèves. C'est quelque chose de fantastique pour certains élèves qui sont sortis du système et qui ne se reconnaissent pas dans l'éducation classique, qui est trop dirigiste. D'un autre côté, certains élèves, au contraire, se retrouvent complètement perdus parce que du coup, t'as plus de règles, t'as plus de cadre, et si tu veux pas y aller, t'y vas pas. Et c'est tout
et
ça.
Du coup, il y en a qui n'y vont pas.
Il y en a qui y vont, mais qui participent pas aux cours, par exemple. Donc ils vont dans le jardin, ils vont fumer tranquille. Tu vois, c'est un peu à la fois l'établissement de la dernière chance pour certains, et c'est un truc qui est totalement atypique pour l'éducation nationale, qui est vraiment étonnant. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Et cette BD-là, c'était justement l'occasion de voir ça parler à travers les yeux de quelqu'un qui a été à l'intérieur et qui a vécu avec eux cette aventure. À tel point qu'elle a...
Ça a l'air super intéressant, hein. Franchement,
c'est vraiment, moi, je peux que le conseiller, et vraiment pour tout le monde, parce que c'est pas quelque chose qui va être, ça peut être lu, il y a plusieurs niveaux de lecture. Tu peux lire ça comme l'expérience d'Aurélia, donc, qui se retrouve là-dedans, alors qu'elle a fait quand même des études de pharmacie, donc quelque chose de très dirigiste, et qui voit ce truc-là, qui est vraiment une utopie. Et en même temps, tu peux voir ça du côté des élèves, du côté des profs qui rencontrent des difficultés, parce qu'au final, c'est vraiment un choix, hein. Les profs qui vont là-dedans, ils choisissent de le faire parce que c'est pour l'éducation nationale, c'est ce qui est expliqué dans la BD entre autres, c'est Satan, quoi. Ce lycée, c'est le lycée du Parti communiste, quoi. Et tu te doutes bien que c'est pas des élèves du 16e qui vont là-dedans, quoi. Donc c'est très surprenant, c'est super frais. Moi, j'ai adoré ce bouquin, et je peux que vous conseiller de le lire. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je vous laisse aussi le plaisir
de la découverte,
exactement. C'est une belle aventure, en tout cas. Et donc là, c'était le premier tome. Je crois qu'elle sort le deuxième dans quelques mois, et je crois qu'il y en aura un troisième. Bon, c'est à suivre. Voilà.
Bah écoute, Captain, tu sais que tu m'as donné envie de faire l'école buissonnière. Alors je te préviens, je ne serai pas là au prochain podcast. Hein. Je pourrais pas être là.
Enfin, j'ai réussi. Bonheur.
Ah, pas bête, c'était discrètement fait, mais très habile.
Hein. Il est malin.
Alors, juste un truc, ça s'appelle LAP, L-A-P, un roman d'apprentissage, et c'est aux impressions nouvelles. Voilà.
Très bien. Et tu le recommandes que pour les fans quand même, c'est pas pour tout le monde?
Non. En fait, je recommande pour tout le monde. C'est vrai que j'avais écrit pour les fans, mais en fait, en y réfléchissant, en parlant, je me rends compte que vraiment, c'est de la BD, ça se lit vite. C'est quand même assez épais, mais ça se lit tellement bien qu'au final, tu vois pas le temps passer. Et t'es arrivé au bout, moi j'ai relu deux fois, et je pense que tout le monde peut se permettre d'y aller sans hésitation.
D'accord. Super, très bien. Eh ben écoute, merci Siegfried. Quakos, c'est à ton tour.
Alors, pas lui.
Il y a deux semaines, je vous parlais d'une comédie américaine sympatoche.
Un euro.
Mais que je ne mettais pas dans mon top 10. Là, par contre, ce soir, je vais vous parler d'un film qui fait partie de mon top 10. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que notamment...
Tu sais quoi, Quakos, je t'interromps une seconde pour te dire qu'une fois de plus, nous nous retrouvons... parce que ça fait aussi partie de mon top 10. Donc vas-y, continue, je ne dis rien d'autre.
Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en parler aussi ce soir? Parce que on reçoit aussi bien des auditeurs de notre podcast qui sont souvent plus jeunes que nous, pourtant la jeunesse fait partie de notre être. Mais j'ai été surpris de voir que beaucoup de jeunes ne connaissent pas ce film, tu vois. Alors, en effet, je crois que le tournage de ce film a commencé il y a 20 ans. Il l'a tourné juin 94, un truc comme ça. Moi, je l'ai vu en 95. Donc,
à ce point-là, c'est si vieux que ça.
Ouais,
ça remonte.
Et à l'époque, d'ailleurs, c'était le film qui m'avait réconcilié avec les thrillers et les films policiers où il n'y avait pas le côté humour que tu avais dans Die Hard ou ce genre de trucs. Et je parle donc de Usual Suspect. Titre original, The Usual Suspect, parce que nous, les Français, on aime bien couper les œufs dans les titres américains, on n'aime pas ça. Et donc, c'est un film, où est ça, sorti en 95, de Bryan Singer, qui était, c'était son deuxième film, je crois. Gros carton, il a eu beaucoup de récompenses et pourquoi est-ce que je le mets dans mon top 10, c'est que c'est un film que j'ai revu des dizaines de fois et à chaque fois je redécouvre un nouveau truc, si tu veux. Bryan Singer a placé a tellement bien réalisé son film qu'il a placé énormément de détails que tu perçois que au bout de plusieurs visions du film. Je fais un petit pitch rapidement. C'est l'histoire d'une enquête policière sur un trafic de drogue gigantesque qui a mal tourné et où il y a seulement deux survivants, un qui est gravement brûlé et un autre qui s'appelle Verbal Kint. Et donc l'histoire, c'est l'interrogatoire de ce Verbal Kint à qui on va essayer de tirer des informations pour remettre les pièces du puzzle et voir où est passée la drogue qu'on n'a pas retrouvée. Voilà un petit peu pour l'histoire. Le casting, alors à l'époque, là on dit c'est une superstar, mais à l'époque ils n'étaient pas connus, faut savoir. Il y a Kevin Spacey qui a fait une carrière qu'on connaît maintenant, mais grâce à ce film-là notamment. Il y avait Benicio del Toro qui était exceptionnel dans ce film. Il y avait un des frères Baldwin, c'est lequel, je sais
plus. L'un des douze.
Voilà, l'un des Baldwin. et plein d'autres comme ça. Alors le jeu d'acteur est magnifique, la mise en scène est superbe. Je conseille juste de s'accrocher parce que c'est un petit peu, surtout qu'on n'est pas habitué
au polar. C'est long à démarrer.
Ouais, les 15 premières minutes sont un peu dures à suivre, mais une fois qu'on a passé les 15 premières minutes, après, ça coule. Et pourquoi est-ce que j'ai aussi une affection particulière pour ce film? Parce que, alors, on va pas spoiler le film, l'idée n'est pas là, mais moi je suis plutôt assez blasé sur ce type de film parce que en général, avant la première moitié du film, je découvre la fin et j'ai aucune surprise. Et là, je dois avouer, c'est un des rares films qui m'a mis une claque à la fin parce que j'avais rien vu venir et que je me suis fait avoir comme un bleu. Et par contre, après, en le regardant plusieurs fois, je m'aperçois qu'il y a plein de détails à côté desquels j'étais passé, qui aura pu me mettre sur la piste, écouter notamment la musique, les thèmes musicaux changent en fonction
de... Ah bah toi, tu parles toujours de musique, forcément,
oui,
c'est ça qui te parle.
Elle joue grande partie dans celui-là. Et après, c'est un film magnifique. Mais alors, si tu l'as aimé aussi,
c'est sûr,
Patrick,
que
tu peux peut-être...
Ah, mais complètement. Moi, c'est l'un de mes films cultes. C'est effectivement un film qui très concilie avec le polar. Même si c'est un petit peu lent, c'est quelque chose qui met du temps à s'installer et puis qui t'attrape et qui te... Tu te surprends à t'intéresser à l'histoire et à essayer de comprendre ce qui s'est passé avec eux. Voilà. Et c'est vraiment un... Non, il y a rien à dire. C'est un excellent film, un super bon polar.
Il y a ce twist final qui fait que ceux qui l'ont pas vu... gardez-vous.
Rien qu'en disant ça, tu vois déjà. Mais disons que effectivement, c'est un film qui a 20 ans, donc il serait peut-être temps de le voir. Mais ça fait partie de l'histoire du cinéma, quoi.
Exactement.
C'est vraiment un film. Il y a quelques films comme ça qui ont marqué toute une génération et il en fait partie. Donc.
J'étais surpris de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais vu ce film-là. Alors, je voulais absolument profiter du Positron, qui m'a semblé l'émission idéale pour ça, pour conseiller à ton jeune public, Patrick, s'ils ne l'ont pas vu, d'aller voir ce film-là. Et même, je dirais, si vous l'avez vu, regardez-le encore, regardez les jeux de regard, tout ça, et vous verrez que vous allez revoir des choses à côté desquelles vous serez passé vous aussi.
Mais tu m'as donné envie de le revoir.
Oui, mais moi aussi.
Là, c'est un des films que je remate une fois par an, tu vois, à peu près.
Ouais.
Donc, ouais.
Oui, je vais peut-être faire ça aussi, du coup. Très, très bien. Merci pour cet excellent conseil, cet excellent positron. À la fois, Captain Web et Quakos, je trouve que vous avez fait très fort aujourd'hui.
Ah. Merci. On s'améliore d'épisode en épisode.
Je vois. Mais déjà,
dans deux semaines.
Mais ça sera le dernier. Donc, vous avez intérêt à faire une sorte de feu d'artifice du positronnage.
Oh, on va positronner à mort.
Très très bien. Bon, d'ici là, si les gens veulent vous suivre sur Internet pour avoir un peu plus de morceaux de votre génie, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver ?
Ah bah sur Instagram, bien sûr, hein, Captain Web.
Évidemment. Aussi, même pseudo. Donc sur Twitter, Captain Web et quoi voilà. Cause
Moi, pour me retrouver entre les cuisses d'une femme quelconque.
D'accord. Non, si elle est intéressante ou intelligente, non. Mais si elle est quelconque, ok. D'accord.
Voilà.
Ok.
Sinon... Non, vous me retrouvez sur Twitter, @quacos, bien sûr, à poster des messages culturels et intéressants, repris souvent par BFN TV.
Oui. D'accord, très très bien. Et ce que j'apprécie particulièrement dans cet épisode, c'est que si certains des auditeurs se disaient au début de cette session avec l'épisode le premier épisode avec Quacos et le Captain Web se disaient mais je comprends pas pourquoi Patrick est tellement horrifié à l'idée de les avoir. Ils sont très bien ces jeunes gens. Ce sont des gens très sympathiques. En plus, ils disaient choses intéressantes. Qu'est-ce qui se passe ? Et ben là, ils ont compris un petit peu, tu vois.
Voilà.
Bon, très bien. Bah écoutez, je vous remercie de votre présence et de vos lumières dans cet épisode. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter. Je suis aussi sur Google+ et sur Facebook, évidemment. Et vous pouvez surtout retrouver les notes de l'émission et d'autres émissions sur FrenchSpin.com, le site qui abrite les podcasts que je produis. Vous retrouverez donc les notes de l'émission avec des liens avec les noms des choses qu'on vous a proposées aujourd'hui. Vous aurez aussi les épisodes précédents. Vous aurez Le Rendez-vous Tech, un podcast qui vous décortique et qui vous explique l'actu tech en détail et en simplicité. Et évidemment, Upload, un podcast qui vous recommande des applications pour mobile, qui est plutôt sympathique aussi, que je fais avec d'autres camarades fort doués. Et ça va être tout pour cet épisode. On se retrouve donc dans 15 jours pour le dernier déjà, enfin, devrais-je dire, enfin, épisode avec les camarades du Captain Web. À dans 15 jours, ciao à tous.
Ciao.
À plus.